15h-16h sur Europe 1.
Il n'y en a pas deux comme elle.
Marion Ruggieri.
Bonjour à tous et merci d'écouter Europe 1. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans Il n'y en a pas deux comme elle. Mon enfant est-il un génie? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui jusqu'à 16h. Les parents d'aujourd'hui idéalisent-ils un peu trop leurs enfants? Mais surtout, la vie de surdoué est-elle si enviable? On y répond avec la psychologue Jeanne Ciot-Fachin. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste des surdoués, fondatrice de Cogitos, premier centre français de prise en charge des troubles des apprentissages scolaires et auteur de L'enfant surdoué, l'aider à grandir, l'aider à réussir, aux éditions Odile Jacob. Et puis nous rejoindra aussi Laurence Lalande, fondatrice d'une école pour enfants surdoués. Elle nous parlera de son expérience auprès de ses petits génies. Et puis comme d'habitude, on attend vos témoignages sur le sujet. Appelez-nous au 3921, le standard est ouvert. Et n'hésitez pas à réagir sur notre page Facebook ou via Twitter, hashtag P2CE. On écoute vos commentaires et vos questions à la fin de l'émission. On commence comme d'habitude par quelques chiffres. On estime à 400 000 le nombre d'enfants surdoués en France en âge d'être scolarisés, c'est-à-dire entre 6 et 16 ans, soit 4% de la population, mais un nombre infime serait détecté. 0,13% de la population a un QI qui se situe au-delà de 145. Pour info, 225, c'est le QI de Terence Tao, un des plus grands mathématiciens de notre époque, et Garry Kasparov, le célèbre joueur d'échecs, a lui un QI de 190. Enfin, seul un tiers des enfants surdoués font des études supérieures, d'après l'AFEP, l'Association française des enfants précoces, et 70% des surdoués sont en échec scolaire, un chiffre que j'ai découvert, un chiffre accablant. Et vous, pensez-vous qu'on a tendance à voir des surdoués partout? On écoute vos réactions.
Je pense qu'on se prend trop la tête sur la capacité des enfants. Il faut les laisser tranquilles. Il y a des enfants, ils sont tous différents.
J'ai une fille qui est surdouée et c'est très compliqué. C'est compliqué parce qu'elle discute tout et qu'elle met depuis quasiment toute petite. Et il faut tout lui réexpliquer. Et que l'autorité, quand elle est juste, est toujours remise en question, mais l'enfant souvent se met vite à se penser aussi fort que l'adulte.
Dans notre cas, il y avait un élève surdoué. Donc là, il a fait 13 ans, il est en première S. C'est le premier de la classe, donc il est très fort et tout.
Ouais, elle est surdouée, vraiment. Elle me l'a dit, elle a fait un test de QI et il est très élevé. Elle n'a pas forcément des bonnes notes parce qu'elle ne travaille pas, mais en fait, elle sait tout. Elle s'ennuie en classe. Vraiment, elle ne fait rien, genre.
C'est pas facile pour un enfant surdoué de se faire des amis. Ils sont mis à part parce qu'il est différent, quoi.
Un micro-trottoir instructif réalisé par Sébastien Bordenave. Alors Jeanne Ciot-Fachin, déjà, à partir de quand dit-on d'un enfant qu'il est surdoué, pour poser le débat?
Alors effectivement, il y a une histoire de chiffres et de QI, mais un QI n'est jamais un diagnostic, c'est simplement un chiffre qui... C'est un indice qui oriente un diagnostic. C'est comme d'avoir 39 de fièvre. Tout dépend des symptômes que vous avez avec.
Bien sûr. Hein,
c'est clair. Donc, il y a, à partir de 130, on considère qu'on est effectivement dans cette catégorie d'enfants surdoués, précoces, à haut potentiel, peu importe le nom qu'on leur donne. Et quand vous parliez tout à l'heure de ces scores de QI mirobolants, c'est d'autres échelles qui ne sont pas celles qui sont validées scientifiquement et qui sont utilisées tout autour de la planète. Donc, qui sont des échelles qui sont validées jusqu'à 155. Donc, attention aux mythes.
Ah, d'accord. Donc, voilà. quand on dit qu'il a un QI de 225, voilà. Terence Tao,
on parle d'autre chose. Voilà, on parle vraiment d'autre chose.
C'est avec l'inflation.
Voilà,
d'accord,
c'est
très
ça.
Bien. On entend beaucoup de parents dire « Mon enfant est un génie, il sait lire à 2 ans, il est fort en puzzle, il connaît la Reine des Neiges par cœur alors qu'il ne l'a vu qu'une fois. » Est-ce que c'est pour autant un surdoué?
Alors je confirme pour la Reine des Neiges, mais pour le reste, c'est vrai que tous les enfants, tous les parents, heureusement, investissent leur enfant et sont heureux de voir un enfant qui se développe bien, qui est curieux, qui s'émerveille, qui apprend facilement, bien sûr. Mais maintenant... bien évidemment que tous ces enfants-là ne sont pas des enfants qui vont avoir ces caractéristiques. Parce que qu'est-ce que ça veut dire d'être surdoué? C'est pas simplement être plus intelligent que les autres et aller plus vite dans les apprentissages que les autres. Pas du tout.
Est-ce que c'est justement être trop intelligent? On entendait dans le micro-trottoir un moment quelqu'un qui disait « c'est très dur avec mon enfant parce qu'il discute sur tout, parce qu'il n'est pas forcément heureux ».
Ben c'est surtout, justement, c'est pas une question forcément de quantité d'intelligence, mais un enfant surdoué, c'est un enfant qui va fonctionner avec des processus, des mécanismes, une intelligence qui est qualitativement différente. Et c'est ça qui va créer ce décalage et quelquefois cette difficulté. Ce n'est pas un enfant qui sait tout, mais un enfant qui a une fulgurance de pensée, qui a une puissance de pensée, qui a une très grande rapidité de transmission neurobiologique des informations entre les neurones dans le cerveau, et puis, et peut-être surtout, qui a une hypersensibilité, c'est-à-dire une réactivité émotionnelle qui fait que ce qui est une broutille pour quelqu'un d'autre va déclencher chez ses enfants des cataclysmes émotionnels.
Alors vous dites que dès la naissance, il existe des singularités, langage, motricité, comportement. Est-ce que vous auriez un exemple concret quand vous parlez de capacité émotionnelle ?
Oui, alors c'est pas tout à fait des capacités, c'est la vibration émotionnelle. C'est-à-dire que ce sont des enfants, par exemple, qui sont touchés par tout, c'est un peu comme s'ils avaient des multiples capteurs en permanence sur l'environnement et qui ont très vite les larmes aux yeux, qui par exemple, tout petits, très tôt, vont avoir des espèces de questionnements existentiels sur la vie, sur la mort. Alors tous les enfants ont des questionnements existentiels à un moment de leur développement. Mais chez eux, ça prend des proportions qui fait que rien ne les rassure. Tout les préoccupe, de voir un SDF dans la rue, et malheureusement on en voit tant, ça va chez lui conduire une espèce d'arborescence de pensées, d'hypothèses, et il va se mettre à pleurer. Ce sont des enfants, dès que vous leur parlez de quelque chose qui les touche, ils sont en larmes. Donc après, c'est une question de décalage.
C'est une sensibilité exacerbée, en fait.
Oui, c'est ça. Et ça a été bien. Ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tout ça est très bien validé par les neurosciences. C'est-à-dire que c'est pas un mythe de psy ou de parents, justement, fascinés par le génie de leur enfant qui fait un pulse à 2 ans. C'est pas du tout le sujet. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que le cerveau des surdoués est structurellement et fonctionnellement construits différemment, c'est-à-dire qu'ils utilisent des zones de cerveau différentes, il y a des vitesses de traitement de l'information, pardon pour ce mot un peu technique, différentes, donc il y a un fonctionnement cérébral différent, et au niveau émotionnel, il y a une hyper-réactivité de l'amygdale, qui est cette petite zone nichée au fin fond du cerveau archaïque, et dont la fonction est de décoder les émotions. Et c'est ça qui fait qu'ils ont des seuils de sensibilité beaucoup plus bas, et la moindre petite chose, un peu comme des écorchés vifs.
Jeanne Siofachin, juste une question un peu dure, les enfants trop intelligents peuvent-ils être heureux ?
Oui, bien sûr, mais à partir du moment où je vais enfoncer une porte ouverte, où ils grandissent dans un milieu suffisamment sécurisant affectivement et où ils arrivent à développer une confiance en eux qui leur permet d'avancer dans la vie en fonction de ce qu'ils sont eux.
Alors vous restez avec nous dans un instant, on parle du quotidien de ces enfants surdoués avec Laurence Lalande qui leur a dédié une école et qui nous expliquera comment ça se passe, car c'est souvent beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Eux sont des surdoués d'un autre genre, Mylène Farmer-Esting, ils chantent Stolen Car et c'est sur Europe 1.
Europe 1, 15h, 16h,
il n'y en a pas deux comme elle.
À quoi ressemble la vie des enfants surdoués ? Voilà la question que se pose Marion Ruggieri cet après-midi jusqu'à 16h sur Europe 1 avec vos invités, Marion.
La psychologue Jeanne Siofachin et Laurence Lalande, cofondatrice d'une école dédiée aux enfants surdoués, auteur de Réconcilier l'enfant surdoué avec l'école aux éditions Erol. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors, première question basique, c'est quoi une école pour enfants surdoués ? Quelle est la différence avec n'importe quelle autre école ?
Alors, une école pour enfants surdoués, effectivement, ça n'accueille que des enfants à haut potentiel. C'est vrai que la première école que j'ai mise en place répondait justement à cette demande, je n'accueillais que des enfants à haut potentiel. Aujourd'hui, la deuxième école que j'ai créée sur Sainte-Maxime, elle accueille d'autres enfants. Donc, il y a différence.
Et pourquoi ça ? Parce que vous pensez que justement c'est bien ?
Alors pourquoi ça ? Parce que en fait ma deuxième école repose aussi sur une pédagogie montessorienne.
D'accord.
Donc qui va effectivement arranger, je dirais, un petit peu tout le monde. Donc à ce moment-là, on peut commencer à accueillir. Donc je reviens un petit peu sur mes propos en disant que c'est bien la première école. J'ai voulu les regrouper quelque part parce que ce sont des enfants qui souffrent à l'école. J'ai voulu leur créer un lieu où ils pouvaient se libérer de toutes ces contraintes, là où ils pouvaient être eux-mêmes et apprendre. Parce que quand effectivement ils sont apaisés, et quand on est tous apaisés, on apprend nettement mieux.
Alors justement, comment est-ce qu'on travaille avec des enfants surdoués ?
Alors avec des enfants surdoués, on travaille à la fois sur le plan cognitif et sur le plan émotionnel. Pour moi, la pédagogie doit être liée, enfin enseignement plus psychologie. On ne peut pas faire... Oui, ne peut pas faire que de l'enseignement pur. Je pense qu'il faut la lier avec la pédagogie et ça serait valable pour tous les enfants.
Mais donc, avec la pédagogie, avec la psychologie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les profs sont aussi psy ? Ça veut dire quoi concrètement ?
Il faudrait que les professeurs aient aussi une formation au niveau de la psychologie de l'enfant.
Et c'est le cas donc dans votre école?
Alors, ce n'est pas le cas dans mon école, parce que ce serait beaucoup trop lourd, puisque on est quand même une école hors contrat, donc ce serait très lourd à mettre en place. Mais ils ont une oreille attentive.
Mais donc, quelle est la spécificité pédagogique de votre école? Vous dites, notre école n'accueille que des enfants surdoués, en tout cas
non,
la première.
Non, la première. La voilà. Deuxième...
La deuxième, non, j'ai bien compris. Mais donc, quelle est la spécificité de l'enseignement à ces enfants?
Alors, je vous dis, c'est lié la pédagogie et la psychologie. Alors maintenant, au niveau de la pédagogie, on va faire des liens entre toutes les matières. Pour nous, il y a un pôle littéraire, il y a un pôle scientifique. Dans le pôle littéraire, vous avez tout ce qui est français, histoire géo, etc. Et dans le pôle scientifique, vous avez les mathématiques, mais vous avez après toutes les sciences qui vont avec. Donc, on va faire des liens d'une matière à l'autre. Par exemple, pour des enfants, nous, en Montessori, on aborde les mathématiques dès la maternelle. Donc, dès l'âge de 3 ans, les enfants abordent les mathématiques. Donc, ils vont aborder les grands nombres. On va pouvoir les aborder aussi à travers, on va les projeter sur les planètes, parce que ça, ça les intéresse.
D'accord.
Et attention, on est quand même sur une population d'enfants qui s'intéresse aussi au système solaire. Donc là, nous avons les grands nombres. Vous voyez, on va à chaque fois revenir sur un plan réel. On rattache les enseignements, on les rattache à la réalité, à du quotidien, et surtout à ce qui va intéresser les enfants.
Alors, Laurence Lalande, moi, ce qui m'a sidérée en préparant cette émission, c'est les chiffres de scolarisation des enfants surdoués qui sont accablants. C'est-à-dire, j'ai vu 70% sont en échec scolaire. Comment est-ce que vous expliquez ça? Ah, je vois que Jeanne, vous n'êtes pas d'accord avec ce chiffre-là?
Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce chiffre-là, parce qu'en réalité, les chiffres, on ne les connaît pas. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on observe...
Oui, parce que de toute façon, beaucoup ne sont pas diagnostiqués.
Mais parce que justement, il n'y a ni en France, ni d'ailleurs ailleurs, aucune étude épidémiologique, un grand mot pour dire qu'il n'y a pas d'étude générale de la population et qu'on ne sait pas, enfin il faut être clair, on ne sait pas aujourd'hui le nombre d'enfants qui sont effectivement, la proportion d'enfants effectivement en échec scolaire et la proportion d'enfants qui réussissent. Il y a quand même des enfants surdoués qui vont bien. Être surdoué, ce n'est pas une pathologie. C'est une particularité de fonctionnement en termes de personnalité, à la fois sur les plans cognitifs et affectifs. On est bien d'accord avec Laurence Lalande là-dessus, bien évidemment. C'est vrai qu'il y a une proportion beaucoup trop élevée d'enfants surdoués en échec scolaire, parce que l'école a beaucoup de mal à accepter.
Comment, voilà.
Parce qu'en fait, l'école a du mal, l'école ordinaire, on va dire. Je ne parle pas de l'école de Laurence Lalande, bien évidemment. Mais l'école ordinaire a énormément de mal à accepter les singularités de ses enfants, qui ne sont pas des enfants qui savent tout, mais des enfants qui ont une espèce d'immense besoin de comprendre pour apprendre. Et qui, comme ils absorbent énormément de connaissances, ne mettent souvent pas en place des stratégies d'apprentissage qu'ils découvrent le plus souvent vers l'adolescence, mais eux n'avaient jamais compris qu'il y avait quelque chose à apprendre et que les autres avaient mis en place des stratégies et des mécanismes depuis le CP. Donc ils se retrouvent quelquefois dans des difficultés dingues parce que effectivement tout d'un coup ils disent « Ah bon, mais et maintenant je fais comment ?»
Alors justement, écoutez ce témoignage qui illustre bien la difficulté de s'intégrer pour ses enfants. C'est Vincent, petit bonhomme de 9 ans. Les enfants de sa classe le prenaient pour un imbécile et pourtant c'était tout l'inverse. Il a un QI de 130 avec les précautions que vous nous avez dites, Jeanne. Il a donc été diagnostiqué surdoué. On l'écoute, c'était sur TF1 il y a quelques mois.
Il ne comprenait pas, donc du coup il me prenait pour un idiot, il me prenait pour un handicapé quoi. Il y en a même qui me disaient, faudrait vraiment que tu ailles dans un hôpital psychiatrique ou des choses comme ça, donc... Au début, je me suis sentie vraiment très seule parce que personne ne me comprenait, en fait. Par exemple, j'avais tellement peur dans la cour que j'avais hâte de rentrer en classe parce que c'était le seul endroit où je me sentais en sécurité.
On dit que les enfants précoces sont des hypersensibles et il faut dire que l'école, à un moment, était un enfer pour toi. Tu étais très malheureux.
Oui, je suis vraiment très sensible à ce qui peut, se rattacher à, aux insultes. Et t'es idiot, tu ressembles à Lucie Australopithèque et en fait, eux, ça passe comme ça, à 2 secondes, ils l'oublient, mais moi, ça reste, quoi. Pour moi, ça, c'est du martyr, mais pour les autres, c'est de la rigolade, je comprends pas.
Voilà, c'était Vincent, ça déchire un peu le cœur. Laurence Lalande, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Réconcilier l'enfant surdoué avec l'école ». Comment on fait pour les réconcilier? Vous en recueillez, vous, des enfants comme ça qui arrivent?
Oui, malheureusement.
D'autres instituts.
On voit beaucoup d'enfants arriver, je dirais, démolis par un système, effectivement, parce que ce sont des enfants qui ont été incompris. On ne leur a pas accordé la bienveillance, on n'a pas pris en charge leurs différences, et souvent ces différences-là, ils les vivent comme un handicap.
Alors vous restez toutes les deux avec nous. Tout à l'heure, on va se demander ce que deviennent ces enfants surdoués une fois grands. Mais avant ça, c'est Nadia Dame qui va nous rejoindre et qui va nous parler, elle, de ses parents qui rêveraient d'avoir un enfant supérieurement intelligent et n'hésite pas à le stimuler. C'est juste après ça.
Il n'y en a pas deux comme elle.
De 15h à 16h sur Europe 1.
Dans un
instant, Marion Ruggieri et ses invités répondront à cette question. Quels adultes deviennent les enfants surdoués? Vous recevez aujourd'hui Marion Ruggieri. On reçoit aujourd'hui, pardon, je m'attendais pas à ça, Jeanne Ciot-Fachin qui est psychologue et également Laurence Lalande, cofondatrice d'une école dédiée aux enfants surdoués. Mais on reçoit, je vous en préviens, ça tout va bien, mais on reçoit surtout Nadia Dame pour son billet. Bonjour Nadia.
Salut Marion.
Alors vous nous parlez, je le disais, de ces parents qui rêveraient d'avoir un enfant supérieurement intelligent et qui n'hésitent pas à les surstimuler pour arriver à leur fin. Est-ce que ça existe vraiment?
Oui, moi j'en connais. Et en préambule d'ailleurs, je voudrais m'adresser aux parents de mon entourage qui m'écoutent peut-être et leur assurer que dans tout ce qui va suivre, toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite. Ainsi, je promets que dans cette chronique, il ne sera pas question de la petite M scolarisée dans l'école de ma fille et dont les parents affirment qu'elle a un QI de 210, hein, tant qu'à faire, diagnostic qui après enquête n'a pas été posé par des spécialistes mais par Google. Ses parents ont fait quelques recherches sur internet et ont décidé que leur enfant était un génie absolument, uniquement parce qu'ils ont décidé, ils ont vu qu'elle s'ennuyait à l'école et c'était comme c'est écrit sur Doctissimo. Alors je ne suis pas pédopsie mais ça me semble un poil léger comme symptôme, hein. Moi perso il m'arrive de me faire super chier au bureau et pourtant j'ai jamais été foutue de finir une partie de Sudoku. Ce qui nous amène à ce dont vous avez un peu parlé pendant cette émission, il y a des parents qui décrètent que leur progéniture est éligible au prix Nobel parce qu'il a fait caca dans le pot avant ses 3 ans ou alors qu'il a l'oreille absolue parce qu'il sait jouer, savez-vous, planter les choux au xylophone. En fait, je crois, mais je peux me tromper, hein, que l'enfant surdoué, c'est un peu comme l'orgasme. On voudrait tous en avoir un et si ça vient pas tout seul, on simule. Et le pire, c'est qu'il y a tout un tas de choses qui existent et qui sont censées aider ses parents à faire de leur enfant un petit génie, donc à le surstimuler. Par exemple, il est possible aujourd'hui de stimuler l'intelligence de nos enfants in utero, avec un appareil muni d'écouteurs à poser sur le ventre de la femme enceinte et qui s'appelle Prenatal Sound System. Comme son nom ne l'indique pas, ça ne consiste pas à faire écouter du ragamuffin au fœtus, mais du Mozart, c'est la fameuse théorie, qui veut qu'écouter les sonates du compositeur augmente le QI, ce qui est évidemment faux, hein. C'est comme si on disait que les gens régulièrement exposés à du maître Gims subissaient d'importants dommages cérébraux. Ah non, ça c'est vrai, pardon. Il est aussi possible de stimuler l'intelligence de votre enfant une fois qu'il est né avec les DVD Baby Einstein. Alors les DVD Baby Einstein, ce sont des petits dessins animés dont l'ambition est d'être plus malin et plus stimulant que Dora l'exploratrice ou Oui. Ce qui, si je peux me permettre, n'est pas un challenge tout à fait insurmontable. Moi perso, j'ai lu des modes d'emploi pour Essoreuse à salade qui avaient plus d'intensité dramatique qu'un épisode de Choupi. Et le pire, c'est quand même ce qu'on appelle le coaching pour enfants. Ça existe. Alors le coaching pour adultes, on connaissait le principe, hein. La chaîne M6 en a largement abusé avec Super Nanny qui coachait des parents dépassés, qui est aujourd'hui décédé. Happy Dog ou une certaine Karine coachait des familles envahies par leur chien qui est elle aussi décédée. Et d'ailleurs, il faudra quand même un jour se demander s'il est tout à fait pertinent de se faire coacher par des gens qui n'arrivent même pas à rester en vie. En tout cas, il existe donc des coachs pour enfants dont la mission est, je cite, d'aider l'enfant à être acteur de sa réussite et développer ses performances. Et je crois qu'il est temps qu'M6 ou une autre chaîne lance une émission de coaching qui coachera des coachs pour leur apprendre à coacher les parents pour qu'ils cessent de coacher leurs enfants, parce qu'on est bien d'accord que surdoué ou non, un enfant n'a pas besoin d'être coaché, élevé ce serait déjà pas mal.
Merci beaucoup Nadia, le cri d'une jeune maman. Dans un instant, comment grandissent les enfants surdoués? Autrement dit, que deviennent-ils? Écoutez bien, c'est juste après Mon Petit Gars de Christophe Maé sur Europe 1.
15h-16h sur Europe 1.
Il n'y en a pas deux comme elle.
Et jusqu'à 16h, avec vous Marion Ruggieri, avec vos invités, on s'intéresse aux enfants surdoués. Quels adultes deviennent les enfants surdoués? Alors on a beaucoup parlé des enfants surdoués en début d'émission, mais rarement de ce qu'ils deviennent. Déjà, adolescent, Jeanne Ciot-Fachin, qu'est-ce que ça devient un enfant surdoué ado?
Alors d'abord, il n'y a pas de généralité, bien évidemment, mais on a entendu
non,
tout
à l'heure...
Non, mais
je veux dire, en fait, est-ce qu'on reste surdoué?
Oui, voilà, bien
est-ce
sûr.
Est-ce qu'on est surdoué à vie?
Bien sûr, parce que justement, c'est une structure de fonctionnement à la fois intellectuelle et affective. Donc, on est surdoué, on est NAIT, on est EST, surdoué, et on le reste toute la vie, puisque bien évidemment, il y a une composante génétique. C'est-à-dire que c'est pas une question d'hérédité, c'est-à-dire qu'un papa et une maman surdoués ne feront pas une ribambelle d'enfants surdoués, ça marche pas
justement,
comme ça.
Justement, je me posais la question.
Non, ça marche pas comme ça. La génétique, c'est éminemment plus complexe, et heureusement, bien évidemment, mais... Bien sûr, comme il y a des composantes génétiques, il y a plus de probabilité d'avoir des enfants surdoués plusieurs enfants surdoués dans une même famille quand il y en a déjà un. Mais c'est pas mathématique comme ça. Heureusement, heureusement qu'on peut pas anticiper et prévoir ce genre de choses. Heureusement. Après, les adolescents, bah, ils restent évidemment avec leurs particularités. Et on entendait tout à l'heure le témoignage de ce jeune garçon qui disait que il se faisait traiter de débile et que pour lui c'était très difficile. Voilà. Vincent, en récréation. Mais combien de fois on entend en consultation des adolescents qui disent, mais moi j'avais l'impression que j'étais fou. Et ils ont tellement une façon de penser autrement, de ressentir autrement, avec souvent une difficulté à l'adolescence d'être en lien avec les autres. J'ai entendu souvent des ados dire qu'ils ont l'impression d'être avec les autres et en même temps qu'il y a comme une vie transparente entre eux et les autres, qu'ils n'arrivent jamais à être vraiment en contact. Et donc ça les conduit souvent chez les psys, qui, comme beaucoup ne connaissent pas ces tableaux cliniques-là, vont leur accoler une pathologie qui ne leur appartient pas. Et comme on ne sait plus très bien quoi en faire, qu'il y a des difficultés avec l'école, qu'il y a des difficultés dans le milieu familial, ce sont des ados, vous voyez, ça me met en colère, ça me fait monter en pression, qui se retrouvent en hôpital psychiatrique, avec des traitements quelquefois incroyablement lourds. D'où la nécessité de bien connaître ces profils pour ne pas mettre des ados puis des adultes, puisque c'est votre question, dans des errances diagnostiques qui vont finalement les plonger parfois dans des désespoirs de vie très compliqués. Très, très compliqué.
Laurence Lalande, vous qui avez fondé une école dédiée aux enfants surdoués, vous en avez connu des adolescents comme ceux que décrit Jeanne?
Malheureusement, oui. J'ai connu beaucoup d'adolescents en grande souffrance, en échec scolaire, avec une image négative d'eux-mêmes, à un point que ce sont des enfants qui parlaient suicide ouvertement. C'en était vraiment dramatique. Parce que c'est vrai que même en tant qu'adulte, même si on est attentif, on est quand même atteint quelque part par cette souffrance. Et je crois que l'enfant surdoué est un enfant qui souffre énormément. Il a la capacité à cacher un petit peu cette souffrance. Mais il y en a certains qui, malheureusement, dérivent vers la dépression. Et c'est vrai que, comme Jeanne, quand on assiste à ça, ça fait mal.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, justement, Jeanne, sur Fachin, vous qui étiez énervée à l'instant?
Oui, non, je suis pas énervée. Ça me met en colère parce que je trouve qu'il faut se préoccuper de ces enfants-là et de ces adolescents-là et de ces adultes-là parce qu'ils ont besoin d'aide, ils ont besoin qu'on les comprenne, ils ont besoin de bienveillance, ils ont besoin qu'on sache que des professionnels, que ça soit des psys, que ça soit des enseignants, que ce soit l'éducation nationale, sachent qu'ils existent et qu'ils ont cette forme de différence. Alors, tous les surdoués ne souffrent pas, mais ce qui les fait souffrir, c'est leur immense lucidité. Hein, René Char disait, la lucidité est la blessure la plus proche du soleil. C'est-à-dire qu'on est extra lucide comme ça, sur tout et tout le temps, et qu'on est extra sensible sur tout et tout le temps, eh bien, effectivement, on résonne beaucoup plus fort et avec des amplitudes beaucoup plus importante que les autres. Et c'est ça qui crée ce sentiment de décalage et quelquefois le fait de grandir un peu comme le vilain petit canard du conte.
Les adultes surdoués, est-ce qu'ils vivent la même vie que les autres?
Alors, les adultes surdoués, ils grandissent comme ils sont, c'est-à-dire toujours avec cette particularité intellectuelle et cette immense sensibilité. Et puis, ils peuvent avoir des difficultés, comme les enfants à l'école, ils peuvent avoir des vraies difficultés à s'insérer dans la société et en particulier à s'inscrire dans les contraintes professionnelles. Parce que dans tout milieu professionnel, eh bien, il y a des chefs, il y a des ordres, il y a des consignes et qu'il y a une différence de tempo chez ces adultes qui souvent vont beaucoup plus vite et qui, comme les enfants, avec leurs enseignants, ont besoin en permanence d'estime pour fonctionner et d'affection.
Alors on écoute justement un adulte surdoué, il s'appelle François, il a été diagnostiqué tard, à 40 ans. Il raconte ici sur France 5 comment il a réagi quand on lui a appris qu'il était surdoué.
Le sentiment qu'on a pu avoir d'être vraiment très différent, là il se matérialise. On voit qu'on est tout au bout d'une distribution que par rapport à l'ensemble de la population se situe vraiment dans un endroit très particulier. Et ça, moi, c'était pas vraiment une surprise, mais ça m'a énormément ému, c'était pas très agréable. Et donc ça confirme une espèce de différence. Or moi, j'ai toujours voulu être absolument normal.
Jeanne Siofachin, vous dites ce qui caractérise les adultes surdoués, c'est la lucidité acérée, un sentiment de peur omniprésent, un sentiment de culpabilité, la sensation d'incomplétude, un ennui aussi dans la vie, de l'empathie, de l'hypersensibilité, de l'hyperconscience, la solitude, l'idéalisme, l'hypercontrôle, l'absence. Ça donne pas très envie tout ça.
Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que parfois, à vous lire dans vos livres et à vous écouter, on a l'impression qu'on n'est pas si loin que ça du syndrome d'Asperger. Je me trompe ou...
Vous avez raison de pouvoir faire ces liens parce qu'effectivement ils sont faits, mais bien sûr qu'on est loin du syndrome d'Asperger parce que justement le syndrome d'Asperger est une pathologie dans le spectre de l'autisme, même si on peut être Asperger à minima, hein, c'est-à-dire et pouvoir mettre en place des stratégies d'adaptation, et que d'être surdoué n'est pas une pathologie, c'est une particularité de fonctionnement. Et puis bien sûr, moi je suis psy, donc j'ai un biais, c'est-à-dire que moi ce que je vois c'est ceux qui souffrent et ceux qui vont pas bien. Ça, c'est important de le dire. Bien Il y a des tas d'adultes surdoués, des tas d'enfants surdoués, des tas d'ados surdoués qui vont bien, qui sont bien dans leur
Non, mais c'est bien de le rappeler. C'est vrai qu'on parle plus souvent des trains qui n'arrivent pas à l'heure, comme on dit
ça,
dans
exactement.
Le journalisme.
Donc,
sans comparaison.
Voilà, il y a un prisme. Et qui sont heureux parce que c'est aussi une intuition incroyable, c'est la fulgurance de pensée, c'est un peu le Eureka d'Archimède quelquefois, c'est la capacité de saisir des liens entre mille et une choses, vous en avez parlé, c'est cette capacité incroyable d'empathie qui est le fait de ressentir les émotions des autres. Donc c'est aussi une capacité à vibrer très fort dans plein de moments de vie, donc avoir des vies intenses. Moi je trouve que cette intensité de vivre, c'est un formidable atout. Mais ça peut aussi créer d'incroyables souffrances. Mais il ne faut pas mélanger les deux et les superposer surtout.
Alors vous restez toutes les deux avec nous. Il en fallait de l'audace pour se frotter au génie musical de sa famille. Elle l'a fait et bien fait. On écoute Lou Doyon, Where to Start, extrait de son nouvel album Lay Low qui sort vendredi sur Europe 1. Et juste après, on écoute vos témoignages au 3921 ou sur la page Facebook de l'émission et via Twitter, hashtag P2CE.
Il n'y en a pas deux comme elle.
De 15h à 16h sur Europe 1.
Et c'est l'heure d'Il n'y en a pas deux comme vous. Toutes les questions et réactions des auditeurs d'Europe 1 avec vos invités, Marion.
Jeanne Ciot-Fachin et Laurence Lalande qui répondent à cette question. Nos enfants sont-ils des génies? Et à vos questions. Alors beaucoup, beaucoup de réactions sur ce sujet. Mais j'aimerais prendre au standard Marilène qui nous appelle de Bondoufle. Marilène, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous avez trois enfants surdoués qui sont adultes à présent.
Oui.
J'imagine que ça n'a pas dû être facile tous les jours, surtout à l'école. Racontez-nous.
Quand on a détecté le deuxième, surtout parce que il était complètement en décalage scolairement, parce que très brillant. Donc, il a fallu que je trouve des solutions parce que l'école ne répondait absolument plus à ses attentes.
Et vous avez fait quoi alors?
Ils ont été dans des classes pour enfants précoces. Son frère l'a rejoint un petit peu plus tard, le grand, parce que lui carrément était en échec scolaire et plein d'éléments faisaient que j'ai, trouvé qu'il y avait beaucoup de similitudes entre eux.
Mm-hmm.
Et à la fois, ce rejet de se, entre guillemets, mettre en avant, parce que son frère était bien mis en avant par la force des choses. Maintenant, avec le recul, je pense qu'on fait comme on peut, parce que le système ne nous aide absolument pas.
Bien sûr, bien sûr. Alors,
l'éducation nationale, c'est une chose, mais ce que je m'aperçois, c'est qu'avec le temps, rien n'a changé. Parce que j'ai un petit-fils qui a 8 ans et c'est le même problème maintenant. Merci
Marilène. Justement, je vais poser la question à Laurence Lalande qui a créé une de ces écoles dédiées aux enfants surdoués. L'éducation nationale, est-ce qu'elle fait quelque chose? Ou est-ce que c'est toujours des initiatives individuelles comme la vôtre?
Alors oui, l'éducation nationale fait quelque chose. Il y a quand même des décrets qui sortent, il y a des choses. On parle des enfants précoces, mais c'est sur le terrain, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le problème se pose sur le terrain. Il faudrait changer toute la formation des enseignants. Alors effectivement, les écoles qu'on peut créer en dehors, quand elles sont hors contrat, on peut mettre en place une pédagogie réellement adaptée aux enfants précoces.
Jeanne Ciot-Fachin, juste une toute petite question. C'est rare d'avoir trois enfants surdoués, comme c'est le cas pour Marilène?
Non, ça arrive. C'est pas systématique, mais ça peut arriver, bien sûr.
Ça n'est pas génétique, toujours.
Non, il y a une composante génétique,
pas héréditaire. Voilà,
c'est
merci, pardon, mais merci pour cette précision. Vous en avez quatre. Mais quatre surdoués,
oui.
Laurence?
Oui.
Ah oui, d'où l'école, je comprends mieux. En fait, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors on prend maintenant en ligne, merci encore à Marilyn, on prend en ligne Jean-Pierre, qui nous appelle d'Avignon. Bonjour Jean-Pierre.
Oh oui, bonjour Marion.
Alors vous êtes un surdoué?
Oui, et je suis, puisque ça a été dit, particulièrement hypersensible et puis un petit peu ému parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai aujourd'hui 50 ans.
Vous l'avez découvert à quel âge? Vous avez été diagnostiqué à quel âge, si je puis dire?
15 ans.
D'accord. Oui, Jean-Pierre, voilà. vous êtes toujours là, oui. Dites-nous. Et donc, comment vous l'avez vécu?
Moi, pour tout un tas de raisons, très bien. Par contre, le sujet qui me préoccupe, mais qui me touche beaucoup, c'est celui qui vient d'être exposé il y a peu de temps. C'est
l'hypersensibilité.
Non. Celui de l'accompagnement des parents au moment du diagnostic. Parce que c'est, je ne sais pas si les personnes qui sont sur le plateau avec vous pourront le confirmer, mais la première réaction le plus souvent, c'est un grand moment de panique et de désarroi. Il n'y a pas forcément d'accompagnement qui est construit aujourd'hui en France, à ma connaissance, qui est pas une thérapie de couple, mais qui est la capacité en famille de pouvoir appréhender ce qui est en train d'arriver.
Je comprends. Merci beaucoup Jean-Pierre pour votre témoignage et merci de nous avoir appelés. Alors Jeanne Siofachin, vous êtes psychologue praticienne, vous êtes spécialiste des enfants surdoués. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Je réponds que le diagnostic est effectivement important, qu'un diagnostic c'est une démarche complexe où effectivement on va évaluer le fonctionnement intellectuel mais aussi la dynamique émotionnelle. L'un ne va jamais sans l'autre et que c'est important dans la vie de savoir qui l'on est pour savoir où on va. Et ça, et on le disait tout à l'heure aussi avec le témoignage de François, souvent les adultes le disent très bien en disant un voile s'est déchiré. C'est-à-dire que tout d'un coup, on relit son histoire à la lumière de ce diagnostic et on comprend mieux certaines étapes de son parcours. Alors pour les enfants, bien sûr, Jean-Pierre a raison, les parents ont besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin qu'on décode le fonctionnement de leur enfant, c'est-à-dire qu'ils ont besoin qu'on les aide de façon à être aussi les premiers supporters au sens anglo-saxon du terme de leurs enfants, parce que c'est aussi eux qui vont pouvoir aller discuter avec l'établissement scolaire, non pas en disant, malgré le titre de votre émission, mon enfant est un génie, parce que évidemment c'est pas du tout ce dont il s'agit, mais voilà, mon enfant a des particularités de fonctionnement, comment vous, école, vous pouvez faire pour nous aider, nous parents.
J'ai une petite question très courte pour finir. Comment est-ce qu'on diagnostique des enfants surdoués et qu'est-ce que ça vaut ? Parce qu'on parle depuis le début de ces QI. Voilà, d'où ça sort et qu'est-ce que ça vaut ?
Alors, faire un diagnostic, c'est effectivement faire des échelles d'efficience intellectuelle qui vont donner un QI, mais qui vont donner mille et une informations sur le fonctionnement intellectuel, et faire des épreuves de personnalité pour appréhender la sensibilité, la dynamique émotionnelle et la personnalité. Alors, qu'est-ce que ça vaut ? Il y a un double sens dans votre question. C'est-à-dire que si vous faites un bilan dans une institution, eh bien, il y a un système de sécurité sociale et c'est gratuit. Si vous le faites en psychologie libérale, il y a un coût d'honoraires et qui dépend de la région et de mille et un facteurs dont le type de test et le nombre de tests qui vont être dans le bilan. Et ensuite, qu'est-ce que ça vaut au niveau plus philosophique ? C'est que c'est très important un diagnostic parce que ça permet d'avoir un éclairage sur son fonctionnement.
Merci mille fois à toutes les deux. Laurence Lalande, oui, juste un mot, allez-y.
Oui, moi je voulais juste dire que pour les enfants c'est important parce que ça permet de mettre un mot sur leur souffrance, sur ce qui ne va pas et de retrouver une certaine identité.
Laurence Lalande, merci et bravo pour cette école que vous avez fondée. Je rappelle que vous avez écrit « Réconcilier l'enfant surdoué avec l'école », c'est aux éditions Erol. Jeanne Siofachin, merci d'avoir été avec nous, merci pour votre concision et votre clarté. Vous êtes l'auteur de « Mais qu'est-ce qui l'empêche de réussir » qui est paru aux éditions Odile Jacob et aussi de « L'enfant surdoué », mais aussi de « Trop intelligent pour être heureux, l'adulte surdoué ». Tout ça est aux éditions Odile Jacob et toutes les références de ces livres sont sur la page Facebook d'Il n'y en a pas deux comme elle. Merci, à très bientôt j'espère. On se retrouve nous demain de 3 à 4 dans Il n'y en a pas deux comme elle pour répondre à cette question. Comment la science décrypte nos rêves ? D'ici là, je vous souhaite un excellent après-midi avec Cyril Hanouna. Cyril, c'est à vous.